Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Ndani Kambala.
Nord Kivu, à l'échéance de l'ultimatum américain, la société civile de Masisi appelle à une nouvelle approche pour la paix. RDC, l'ONU annonce un investissement de 473 millions de dollars dans les secteurs sociaux en 2025. Ces chiffres ont été communiqués ce mercredi lors de la présentation du rapport du cadre de coopération pour le développement durable à Kinshasa. Est de la RDC, l'absence de retrait des troupes rwandaises relance les débats sur le processus de paix. Le non-respect de ce retrait des troupes rwandaises de la RDC a été au centre du débat entre les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mercredi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal du matin. Au Nord Kivu, la société civile de Masisi appelle la médiation américaine à revoir son approche dans le processus de paix entre la RDC et le Rwanda. Cet appel intervient à l'expiration de l'ultimatum fixé par le président américain au Rwanda pour le retrait des forces rwandaises accusées de soutenir la FC-M23 dans l'est du pays. Selon les rapporteurs généraux de cette structure, Telesfor Mitondelke, les attentes des populations affectées par les conflits n'ont une nouvelle fois pas été satisfaites. Ils déplorent plutôt un renforcement de position des belligérants et une recrudescence des affrontements sur le terrain. Suivons ses propos.
Cette population qui pourtant ne faisait que suivre aussi cet ultimatum à la date constate malheureusement à ce jour que rien sur le terrain n'a évolué. La population ne fait que constater des attaques sur différentes lignes de front, des renforcements des troupes sur différentes lignes, alliées et places du retrait tel que cela a été demandé par l'ultimatum des États-Unis. Voilà pourquoi il faudra encore une fois repenser toutes les stratégies mises en place afin d'amener en tout cas à des solutions concrètes avec des effets immédiats sur terrain. D'ailleurs, il faudra que également de l'autre côté des États-Unis, on puisse tirer toutes les conséquences parce que les États-Unis ayant donné cet ultimatum et doit aussi procéder à une évaluation. Et il faudra aussi qu'un cadre, en tout cas, contraignant soit aussi mis en place. Parce que ce n'est pas le premier ultimatum donné en ce sens. Il y en a eu autant dans le passé, mais tout cela n'a pas été respecté. Mais quelles sont les conséquences tirées en tant que grande puissance dans les camps de non-respect? En tant que paré de cet accord, ce cadre de résolution de la crise qui équipe notre parti de la République démocratique du Congo.
Rappelons que le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait fixé la mi-juillet comme échéance pour le début du retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Cette demande s'inscrivait dans les efforts de Washington visant à accompagner la mise en œuvre de l'accord de paix conclu entre la RDC et le Rwanda. Toutefois, à ce jour, aucun retrait effectif des troupes rwandaises n'a été officiellement constaté dans les zones contrôlées par l'AFC M23. Toujours dans le cadre du processus de paix, le gouvernement congolais et l'AFC M23 s'étaient engagés le 17 avril dernier à Montreux en Suisse à procéder à un échange de détenus au titre des mesures de confiance prévues dans les pourparlers de Doha. L'accord concernait la libération de 311 personnes réclamées par l'AFC M23 et des 166 détenus liés au gouvernement congolais avec l'appui du Comité international de la Croix-Rouge. Mais trois mois après cet engagement, aucun échange n'a été encore effectué. Qu'est-ce qui bloque la mise en œuvre de cet accord? Les éléments de réponse avec Martial Papimukeba.
Malgré des annonces de part et d'autre, les processus restent au point mort. Selon plusieurs sources, les retards s'expliquent d'abord par les difficultés à identifier les centres de détention et à localiser toutes les personnes concernées. Autre obstacle, la validation des listes des détenus, un exercice sensible où interviennent des considérations politiques, tant du côté de l'AFC M23 que du gouvernement congolais. À cela s'ajoutent des contraintes judiciaires, certains prisonniers étant considérés comme stratégique par Kinshasa. Les transferts posent aussi des défis sécuritaires et sanitaires. Certains itinéraires doivent traverser des zones d'insécurité, des régions touchées par Ebola ou encore des pays voisins. Mais pour plusieurs observateurs, le principal blocage reste l'absence des volontés politiques des deux partis à mettre en œuvre les engagements pris à Montrer, comme c'est aussi le cas pour les cessez-le-feu. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Au sud Kivu, présent après plus de 6 mois de blocus, les habitants de la chefferie des ninjas dans le territoire de Kabare peuvent de nouveau rejoindre la ville de Bukavu par la route. Cet axe était resté fermé en raison des affrontements récurrents entre les combattants Wazalendo et les rebelles de l'FC M23, une situation qui avait fortement perturbé les échanges commerciaux et affecté les activités économiques de la région. La reprise de la circulation est accueillie avec soulagement par les populations locales qui espèrent un retour progressif à la normale. Les détails avec Ronéline Tibonera.
C'est dans une ambiance de chants et de danses que les hommes et les femmes des ninjas ont accueilli les premiers convois de motos en provenance directe de Bukavu. Transportant vivres et passagers, ces motards ont redonné espoir à une communauté longtemps plongée dans le désespoir, témoignent certains habitants. L'organisation Jeunesse Active pour le Développement estime que cette réouverture facilitera les échanges avec une zone longtemps enclavée et permettra à la population d'accéder à des services essentiels, souligne Bienfait Zina, son coordinateur.
La JADE encourage les autorités compétentes et les services de sécurité à poursuivre leurs efforts en fait de garantir durablement la sécurité des usagers de cette route. La population civile qui ne participe pas aux hostilités doit pouvoir circuler librement, accéder aux services essentiels et exercer ses activités dans la dignité, la sécurité et le respect de ses droits.
La chefferie des ninjas est l'une des entités coutumières du territoire de Kabare dans la province du Sud-Kivu. Située à environ 80 km de Bukavu, elle demeure marquée par une forte instabilité. De mouvements citoyens et les représentants des étudiants dénoncent régulièrement l'activisme de groupes armés qui entretiennent l'insécurité. Malgré ces alertes, la zone reste sous contrôle des FRDC.
Le système des Nations Unies en RDC dresse le bilan de ses interventions pour l'année 2025. Selon les chiffres présentés mercredi à Kinshasa, l'ONU affirme avoir mobilisé 473 millions de dollars américains pour financer plusieurs projets de développement à travers le pays. Ces investissements ont notamment concerné les secteurs de l'emploi, de la gouvernance, de la protection sociale, de la production des données statistiques, de l'action climatique, de l'inclusion sociale ainsi que du renforcement des institutions nationales. Ces résultats ont été dévoilés lors de la présentation du rapport du cadre de coopération pour le développement durable. Le point avec Benjamin Mudumbi.
Au cours de l'année 2025, le système des Nations Unies a accompagné le développement des compétences, l'entrepreneuriat, l'accès aux services financiers et le renforcement des chaînes de valeur productives, en particulier au bénéfice de communautés vulnérables. À travers ces programmes, le système des Nations Unies a créé environ 31 414 emplois et aider au moins 11 683 personnes à accéder aux services financiers digitaux. La même année, grâce à l'appui de l'ONU, au moins 15 025 ménages ont intégré des mécanismes d'inclusion financière, tandis que 4 700 jeunes, femmes et acteurs communautaires ont bénéficié des formations pour l'emploi. Le coordonnateur résident et humanitaire intérimaire Damien Mama s'est réjoui que le système de l'ONU ait contribué au cours de cette période au renforcement de l'état des droits, à la modernisation de l'administration publique et à l'amélioration de l'accès à l'identité légale. Dans l'ensemble, bien que la mobilisation des ressources demeure modérée avec seulement 35% des besoins couverts sur un total estimé à 1,35 milliard de dollars, la performance financière traduit une dynamique encourageante. Elle met toutefois en évidence la nécessité d'optimiser davantage l'allocation des ressources et d'accélérer leur mise en œuvre afin d'en maximiser les effets.
Dans l'actualité économique, la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo plaide pour un cadre de concertation plus responsable et inclusif entre les différents acteurs du secteur minier en RDC. À cet effet, elle organise de mercredi à vendredi à Kinshasa un forum consacré à la réflexion sur les opportunités qu'offre la révision du code minier. Cette rencontre vise à renforcer la cohésion des opérateurs miniers et à promouvoir une meilleure valorisation des ressources du pays au profit du développement national. Les explications avec Blaise Ndonga Lamayanda.
placé sous le thème « Quel enjeu pour la stabilité juridique, la compétitivité et l'attractivité du secteur minier en RDC ?» Cette rencontre s'interroge sur l'importance ou non d'une révision du code minier. Pendant 3 jours, les participants attendent construire un environnement juridique, réglementaire et institutionnel qui inspire confiance tout en permettant au pays de mieux tirer profit de ses ressources naturelles. Pour le président de la Chambre des mines de la FEC, il est nécessaire que le secteur minier se dote d'un cadre clair, stable et appliqué de manière cohérente pour améliorer sa performance. Kassongo Bin Nassor.
Des opérateurs miniers, leur objectif est de dégager une position commune en tant qu'opérateurs avant d'aller vers les autorités de manière à engager un dialogue constructif et inclusif.
Pour sa part, le président de la Fédération des entreprises du Congo a exprimé sa satisfaction face à la décision du chef de l'État visant les retraits des militaires des sites miniers à travers le pays. Il a indiqué que la richesse géologique ne suffit pas à ces moments où les investisseurs ont besoin d'un environnement stable. Pour les thématiques retenues au cours de ce forum figurent notamment l'analyse de l'opportunité, de la pertinence et des risques liés à une nouvelle révision du code minier.
Face à la persistance de l'insécurité dans l'est de la RDC et à l'évolution des défis sécuritaires, le gouvernement entend renforcer les capacités opérationnelles des forces armées. L'Assemblée nationale a ainsi entamé l'examen du projet de loi de programmation militaire couvrant la période 2027-2030, présenté par le vice-premier ministre en charge de la Défense. Ce texte prévoit notamment des investissements destinés à moderniser l'armée congolaise et améliorer ses moyens d'action. Les détails avec Gassam Zati, notre permanent au Parlement.
Face aux députés nationaux, le vice-premier ministre de la Défense, Guy Kabombo Madianvita, affirme que ce projet de loi vise à renforcer les capacités des FARDC face à la dégradation persistante de la situation sécuritaire. Selon le gouvernement, cette nouvelle programmation doit tirer les de la précédente loi en corrigeant les insuffisances relevées dans sa mise en œuvre. Elle prévoit des investissements dans les infrastructures militaires, les équipements, la formation des soldats, le renseignement, la recherche et l'administration militaire. Contrairement à la précédente programmation, le nouveau texte met davantage l'accent sur l'adaptation de l'armée aux nouvelles menaces sécuritaires et sur une planification plus cohérente des investissements destinés à moderniser les FARDC sur les 4 prochaines années. L'objectif est de permettre à l'État de financer progressivement les réformes jugées prioritaires pour rendre l'armée plus efficace et mieux préparée. En raison du caractère sensible des questions liées à la défense nationale, les députés ont décidé de poursuivre les débats à huis clos, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. L'examen du projet de loi se poursuivra avant son éventuelle adoption.
Et puis en Ituri, le tribunal militaire de garnison de Bounia a rendu 103 jugements en seulement 3 semaines. Ces décisions ont été prononcées au cours de 45 audiences dites marathon, organisées avec l'appui technique, logistique et financier de la section d'appui à la justice de la MONUSCO. Au-delà de l'accélération du traitement des dossiers, cette initiative visait également à réduire la surpopulation carcérale à la prison centrale de Bounia dans un contexte marqué par la menace de l'épidémie. Démis d'Ebola, le point avec Jean-Claude Lokidile.
Les 103 prévenus et jugés étaient poursuivis notamment pour viol sur mineurs, association des malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, meurtre ou encore détention et vente des faits militaires. À l'issue des audiences, certains, dont des militaires des FARDC, ont été condamnés à la servitude pénale à perpétuité. D'autres ont écopé de peines plus légères, notamment un prévenu condamné à 4 mois de prison pour propagation de faux bruits. Faute de preuves suffisantes, plusieurs accusés ont également été acquittés, explique le greffier du tribunal militaire de Ghana. De Bounia. Selon le président de cette juridiction, ces audiences avaient pour principal objectif d'accélérer le traitement des dossiers des personnes placées en détention préventive afin de réduire la surpopulation carcérale. À la prison centrale de Bounia, près de 80% des détenus attendent encore d'être fixés sur leur sort judiciaire. Avec l'épidémie d'Ebola qui sévit en Ituri, la réduction du nombre de détenus est considérée comme une mesure permettant de limiter les risques de propagation de la maladie dans un établissement largement surpeuplé. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Rendons-nous à présent dans le centre du pays à Kananga, dans la province du Kasaï central. De nombreux jeunes y ont fait de la manucure et de la pédicure une véritable source de revenus. Cette activité leur permet de subvenir à leurs besoins et de créer leur propre emploi. Toutefois, les professionnels de santé mettent en garde contre les risques d'infection lorsque les règles d'hygiène ne sont pas respectées dans l'exercice de ces métiers. Ils appellent à davantage de vigilance pour protéger la santé des clientes. Le point avec André Katendenga Lamoulomé.
Au quartier Kamaï, Willy Moulumba sillonne les rues avec son sac de travail. À l'intérieur, on retrouve des limes, des coupe-ongles, des vernis et plusieurs autres accessoires des manicures et des pédicures. Depuis 2020, ces jeunes tirent ses revenus de cette activité. Chaque jour, il gagne entre 20 et 25 000 francs congolais, ce qui lui permet de subvenir à ses besoins et de contribuer à la prise en charge de sa famille.
Je garde des bons souvenir de ce travail. J'ai pu me marier, louer une maison et assurer la scolarité de mes frères et sœurs.
Malgré les avantages qu'offrent ces métiers, les risques sanitaires demeurent une préoccupation. Dans plusieurs cas, les mêmes instruments sont utilisés sur différents clients sans désinfection adéquate. Selon l'infirmier Kadin Tumba, cette pratique peut favoriser la transmission de certaines infections, notamment lorsqu'une personne se blesse au cours des soins.
Si quelqu'un déjà infecté est blessé et lorsqu'on part encore utiliser chez quelqu'un d'autre, il y a possibilité que la personne qui n'était pas infectée soit aussi infectée.
Il recommande à chaque client de disposer de son propre kit d'instruments avant chaque utilisation. Kanana, André Kak...
Actualité internationale.
Le ministère algérien de la Défense annonce qu'un groupe criminel composé de 6 individus appartenant au groupe MAC, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie en Algérie, a été arrêté lundi 13 juillet. 4 éléments de ce groupe qui s'activaient dans la région de Tizi Ouzou sont de nationalité marocaine et résident illégalement en Algérie, indique le ministère. Ils sont accusés d'avoir voulu perturber le bon déroulement des législatives qui ont eu lieu le 2 juillet sans plus d'explications.
L'invité.
Retour sur les dossiers sécuritaires dans l'Est de la RDC. Le 4 juin dernier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait exprimé l'espoir de voir les troupes rwandaises se retirer du territoire congolais avant la mi-juillet. Mais à l'échéance du 15 juillet, aucun des engagements officiels des forces de défense rwandaises n'a été constaté dans les zones sous contrôle de l'FC-M23. Cette situation soulève des interrogations sur la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre du processus de paix. Le sujet a été largement débattu mercredi dans l'émission Dialogue entre Congolais. Écoutons les réactions recueillies par Guimaté Tsongo.
Joseph Nkoyi, vous êtes député national et cadre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes également rapporteur adjoint de la Commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Comment vous analysez le non-respect du délai du retrait des troupes rwandaises de la RDC à la mi-juillet 2026?
Justement, vous posez la question... Pourquoi le Rwanda refuse-t-il de pouvoir appliquer l'accord de Washington? C'est ça la question principale. De manière générale, ou naturellement, Paul Kagame ou le Rwanda ne peut pas allègrement exécuter cet accord. Si le Rwanda exécute cet accord, toute l'architecture économique du Rwanda est complètement paralysée parce que, comme vous le savez, le système économique rwandais actuellement est fondé ou est alimenté par les richesses qui sont soustraites frauduleusement ou dans les conditions les plus inhumaines sur les territoires congolais. Et donc, c'est le Rwanda qui met tout en œuvre, toutes les manœuvres pour que cet accord de Washington ne soit pas exécuté. Ainsi, pour répondre brièvement à votre question, pourquoi aujourd'hui le Rwanda n'a-t-il pas retiré ses troupes sur les territoires congolais? C'est parce que, justement, le Rwanda s'est servant de quelques Congolais. Je veux dire qu'ils n'aiment pas leur pays pour justifier le fait que sa présence ou le conflit à l'est du pays, c'est une question congolo-congolaise. Nous sommes justement parvenus à lever tout équivoque sur cette question sur base des efforts qui sont déployés par le président de la République, le gouvernement.
Merci Augustin Bissimouan, vous êtes secrétaire général du parti politique MDVC et coordonnateur exécutif national adjoint en charge de la défense et sécurité de la coalition de la gauche congolaise dirigée par l'honorable Jean-Marc Kabound. Votre lecture aussi sur le non-respect du délai qui a été donné au Rwanda pour se retirer retirer du territoire congolais.
Je crois que l'erreur que nous commettons, c'est que lorsque nous allons négocier les accords, nous laissons évidemment ceux qui sont censés donner une grande contribution. Parce qu'en les suivant, il vous dit que 70% des FDLR se trouvent dans la zone contrôlée par les M23. Mais malgré cela, le gouvernement a signé l'accord en acceptant prendre ses engagements de traquer les FDLR. C'est alors que, si vous vous rappelez très bien, Guy, on a fait une émission encore ici, parce que l'accord a été signé le 4 décembre, et déjà en janvier-février, on a fait une émission au cours de laquelle j'avais présenté des ambiguïtés dans cet accord, et je l'ai qualifié d'ailleurs de monstre à plusieurs têtes, en ce qu'il y aura des difficultés sur le plan de la mise en œuvre. Aujourd'hui, nous y sommes. J'ai d'ailleurs conseillé à l'époque qu'on puisse créer ou faire ce qu'on peut appeler, par exemple, un addendum ou un avenant, pour arriver à clarifier quand est-ce que le Rwanda se retire. Est-ce qu'il se retire pendant la neutralisation des FDLR ou après neutralisation? Et l'accord n'a rien dit par rapport à ça. Est-ce que nous devrions, nous, accepter cette charge? J'avais conseillé que non, qu'en signant l'accord, on a accepté ce qu'il ne fallait pas accepter, et aujourd'hui, ça nous rattrape.
Merci Rigen Miviri, vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire de recherche du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. Quelle lecture vous faites aussi du non-respect de ces délais du retrait des troupes rwandaises de la RDC à la mi-juillet 2026?
Déjà, il faut rappeler que ce n'était pas un délai ferme. Dans le reportage, on l'a bien dit, M. Marco Rubio espérait, et le mot a tous les sens, donc... il n'y avait pas une date précise, disons, un calendrier clair dans les engagements pris depuis lors. Donc, ce qui fait que beaucoup d'acteurs jouent sur cette ambiguïté-là. Chacun conditionne l'exécution de son obligation à l'exécution de l'obligation par l'autre partie. On sait que le monde est tel que les États ne s'exécutent pas tout simplement parce qu'ils se sont engagés. Ils font des calculs politiques. Donc, il faut replacer aussi, encore une fois, cet engagement dans un processus politique. Tant que les uns les autres ne pensent pas avoir eu des gains sur ce qui était leur motivation à déclencher ces offensives, je ne pense pas qu'ils vont tout simplement se désengager.
Voilà qui met fin à ce journal parlé du matin, préparé pour vous par Richard Junior Kamunga et mis en onde par Alain Goy. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la radio de la paix.